Herlock Sholmès qu'il avait expédié la veille en Angleterre, ainsi qu'un colis dangereux, et qui se dressait en face de lui, victorieux et libre. Ah, pour que cet impossible miracle se fût réalisé malgré la volonté d'Arsène Lupin, il fallait un bouleversement des lois naturelles, le triomphe de tout ce qui est illogique et anormal. Herlock Sholmès en face de lui! Et l'Anglais prononça, ironique à son tour, et plein de cette politesse dédaigneuse avec laquelle son adversaire l'avait si souvent cinglé. « Monsieur Lupin, je vous avertis qu'à partir de cette minute, je ne penserai plus jamais à la nuit que vous m'avez fait passer dans l'hôtel du baron d'Autrec, plus jamais aux mésaventures de mon ami Wilson, plus jamais à mon enlèvement en automobile et non plus à ce voyage que je viens d'accomplir, ficelé par vos ordres sur une couchette peu confortable. Cette minute efface tout. Je ne me souviens plus de rien. Je suis payé. Je suis royalement payé. »
Lupin garda le silence. L'Anglais reprit.
« N'est-ce pas votre avis ?»
Il avait l'air d'insister, comme s'il eût réclamé un acquiescement, cette sorte de quittance à l'égard du passé. Après un instant de réflexion, durant lequel l'Anglais se sentit pénétré, scruté jusqu'au plus profond de son âme, Lupin déclara « Je suppose, monsieur, que votre conduite actuelle s'appuie sur des motifs sérieux. »
« Extrêmement sérieux. »
Le fait d'avoir échappé à mon capitaine et à mes matelots n'est qu'un incident secondaire de notre lutte. Mais le fait d'être ici, devant moi, seul, vous entendez, seul en face d'Arsène Lupin, me donne à croire que votre revanche est aussi complète que possible.
Aussi complète que possible.
Cette maison ?
Cernée.
Les deux maisons voisines ?
Cernée.
L'appartement au-dessus de celui-ci ?
Les trois appartements du cinquième que M. Dubreuil occupait, cernés.
De sorte que
vous êtes pris, M. Lupin, irrémédiablement pris.
Les mêmes sentiments qui avaient agité Sholmès au cours de sa promenade en automobile, Lupin les éprouva. La même fureur concentrée, la même révolte, mais aussi, en fin de compte, la même loyauté le courba sous la force des choses. Tous deux également puissants, ils devaient pareillement accepter la défaite comme un mal provisoire auquel on doit se résigner.
« Nous sommes quittes, monsieur, »
dit-il nettement. L'Anglais sembla ravi de cet aveu. Ils se turent. Puis Lupin reprit, déjà maître de lui et souriant.
« Et je n'en suis pas fâché.
Cela devenait fastidieux de gagner à tout coup. Je n'avais qu'à allonger le bras pour vous atteindre en pleine poitrine. Cette fois, j'y suis. »
« Touché, maître. »
Il riait de bon cœur.
« Enfin, on va se divertir. Lupin est dans la souricière. »
Comment va-t-il sortir de là ?
Dans la souricière. Quelle aventure !
Ah, maître, je vous dois une rude émotion.
C'est cela, la vie.
Il se pressa les tempes de ses deux poings fermés, comme pour comprimer la joie désordonnée qui bouillonnait en lui. Et il avait des gestes d'enfant qui, décidément, s'amusent au-delà de ses forces. Enfin, il s'approcha de l'Anglais.
« Et maintenant ? Qu'attendez-vous ?
Ce que j'attends. Oui, Ganimard est là avec ses hommes. Pourquoi n'entre-t-il pas ?
Je l'ai prié de ne pas entrer.
Et il a consenti.
Je n'ai requis ses services qu'à la condition formelle qu'il se laisserait guider par moi. D'ailleurs, il croit que M. Félix Davet n'est qu'un complice de Lupin.
Alors je répète ma question sous une autre forme. Pourquoi êtes-vous entré seul ?
J'ai voulu d'abord vous parler.
Ah, vous avez à me parler. Cette idée parut plaire singulièrement à Lupin. Il y a de telles circonstances où l'on préfère de beaucoup les paroles aux actes. Monsieur Sholmès, je regrette de n'avoir point de fauteuil à vous offrir. Cette vieille caisse à moitié brisée vous agrée-t-elle? Ou bien le rebord de cette fenêtre? Je suis sûr qu'un verre de bière serait le bienvenu. Brune ou blonde? Mais asseyez-vous, je vous en prie.
In a chair. Causons.
J'écoute.
Je serai bref. Le but de mon séjour en France n'était pas votre arrestation. Si j'étais amené à vous poursuivre, c'est qu'aucun autre moyen ne se présentait d'arriver à mon véritable but.
Et qui était?
De retrouver le diamant bleu.
Le diamant bleu.
Certes, puisque celui qu'on a découvert dans le flacon du consul Blayton n'était pas le vrai.
En effet, le vrai fut expédié par la dame blonde. Je le fis copier, exactement. Et comme alors j'avais des projets sur les autres bijoux de la comtesse et que le consul Blayton était déjà suspect, la susdite dame blonde, pour n'être point soupçonnée à son tour, glissa le faux diamant dans les bagages du susdit consul.
« Tandis que vous, vous gardiez le vrai !»«
Bien entendu.
Ce diamant-là, il me le faut. » »«
Impossible. Mille regrets. »«
Je l'ai promis à la comtesse de Crozon. Je l'aurai. » »«
Comment l'aurez-vous, puisqu'il est en ma possession ?»
Je l'aurai précisément parce qu'il est en votre possession.
Je vous le rendrai donc.
Oui.
Volontairement.
Je vous l'achète.
Lupin eut un accès de gaieté. Vous êtes bien de votre pays. Vous traitez ça comme une affaire.
C'est une affaire.
Et que m'offrez-vous?
La liberté de Mademoiselle d'Estanges.
Sa liberté.
Mais je ne sache pas qu'elle soit en état d'arrestation. Je fournirai à M. Ganimard les indications nécessaires. Privée de votre protection, elle sera prise, elle aussi.
Lupin s'esclaffa de nouveau.
Cher monsieur, vous m'offrez ce que vous n'avez pas.
Mademoiselle d'Estanges est en sûreté et ne craint rien.
Je demande autre chose.
L'Anglais hésita, visiblement embarrassé, un peu de rouge aux pommettes. Puis, brusquement, il mit la main sur l'épaule de son adversaire.
« Et si je vous proposais... »«
Ma liberté ?»«
Non. Mais enfin, je puis sortir de cette pièce, me concerter avec M. Ganimard... »«
Et me laisser réfléchir ?»«
Oui. »«
Mais mon Dieu !» À quoi cela me servira-t-il? Ce satané mécanisme ne fonctionne plus, dit Lupin en poussant avec irritation la moulure de la cheminée. Il étouffa un cri de stupéfaction. Cette fois, caprice des choses, retour inespéré de la chance, le bloc de marbre avait bougé sous ses doigts. C'était le salut, l'évasion possible. En ce cas, à quoi bon se soumettre aux conditions de Sholmès? Il marcha de droite et de gauche, comme s'il méditait sa réponse. Puis, à son tour, il posa sa main sur l'épaule de l'Anglais.
« Tout bien pesé, monsieur Sholmès, j'aime mieux faire mes petites affaires seules. Cependant, non, je n'ai besoin de personne. Quand Ganimard vous tiendra, ce sera fini. On ne vous lâchera pas.
Qui sait ?»«
Voyons, c'est de la folie. Toutes les issues sont occupées. »
Il en reste une.
Laquelle?
Celle que je choisirai.
Des mots. Votre arrestation peut être considérée comme effectuée.
Elle ne l'est pas.
Alors?
Alors je garde le diamant bleu. Sholmès tira sa montre.
Il est 3h10. À 3h, j'appelle Ganimard.
Nous avons donc 10 minutes devant nous pour bavarder. Profitons-en, monsieur Sholmès. Et pour satisfaire la curiosité qui me dévore, dites-moi comment vous vous êtes procuré mon adresse et mon nom de Félix Davey. Tout en surveillant attentivement Lupin, dont la bonne humeur l'inquiétait, Sholmès se prêta volontiers à cette petite explication où son amour-propre trouvait son compte et repartit « Votre adresse, je la tiens de la dame blonde. Clotilde ? Elle-même ? Rappelez-vous, hier matin, quand j'ai voulu l'enlever en automobile, elle a téléphoné à sa couturière. En effet, eh bien, j'ai compris plus tard que la couturière, c'était vous. Et dont le bateau, cette nuit, par un effort de mémoire, qui est peut-être une des choses dont il me sera permis de tirer vanité, je suis parvenu à reconstituer les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone. 73. De la sorte, possédant la liste de vos maisons retouchées, il m'a été facile, dès mon arrivée à Paris ce matin, à 11h, de chercher et de découvrir dans l'annuaire du téléphone le nom et l'adresse de M. Félix Davey. Ce nom et cette adresse connue, j'ai demandé l'aide de M. Ganimard. Admirable! De premier ordre! Je n'ai qu'à m'incliner. Mais ce que je ne saisis pas, c'est que vous ayez pris le train du Havre. Comment avez-vous fait pour vous évader de l'hirondelle?
Je ne me suis pas évadé. Cependant, vous aviez donné l'ordre au capitaine de n'arriver à Southampton qu'à 1h du matin. On m'a débarqué à minuit. J'ai donc pu prendre le paquebot du Havre.
Le capitaine m'aurait trahi? C'est inadmissible.
Il ne vous a pas trahi.
Alors,
c'est sa montre.
Sa montre?
Oui, sa montre que j'ai avancée d'une heure.
Comment?
Comme on avance une montre en tournant le remontoir. Nous causions, assis l'un près de l'autre. Je lui racontais des histoires qui l'intéressaient. Ma foi, il ne s'est aperçu de rien.
Bravo, bravo, le tour est joli, je le retiens. Mais la pendule qui était accrochée à la cloison de sa cabine?
Oh, la pendule, c'était plus difficile, car j'avais les jambes liées. Mais le matelot qui me gardait pendant les absences du capitaine a bien voulu donner un coup de pouce aux aiguilles.
Lui? Allons donc, il a consenti?
Oh, il ignorait l'importance de son acte. Je lui ai dit qu'il me fallait à tout prix prendre le premier train pour Londres, et il s'est laissé convaincre. Moyennant un petit cadeau que l'excellent homme, d'ailleurs, a l'intention de vous transmettre loyalement.
Quel cadeau?
Presque rien.
Mais encore?
Le diamant bleu.
Le diamant bleu?
Oui, le faux. Celui que vous avez substitué au diamant de la comtesse et qu'elle m'a confié.
Ce fut une explosion de rire, soudaine et tumultueuse. Lupin se pâmait, les yeux mouillés de larmes.
Dieu que c'est drôle! Mon faux diamant repassé au matelot! Et la montre du capitaine! Et les aiguilles de la pendule.